tous, il est 5h, merci de vous réveiller avec nous sur Radio J. Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr. Bienvenue à toutes et à tous dans le Grand Journal. Un grand journal à écouter sur notre site radioj.fr et sur notre appli gratuite. Vous pouvez également nous suivre en vidéo sur nos pages Facebook, YouTube et X. Tout de suite, le premier journal de l'après-midi avec Ethanie Belaïch. Bonjour Ethanie.
Bonjour Steve, bonjour à tous.
Au 222e jour de la guerre contre le Hamas, Tsahal annonce la mort d'un premier soldat tué à Rafah dans le sud de la bande de Gaza.
Le sergent Ira Yair Gispan, 19 ans, qui opérait dans le 75e bataillon de blindés. Il est le 269e soldat à avoir perdu la vie dans les combats à Gaza. Il y a un peu plus d'une semaine, l'armée israélienne lançait à Rafah l'incursion terrestre promise depuis des mois afin de venir à bout des 4 derniers bataillons du Hamas toujours en activité sur place. Les opérations se limitent pour le moment à l'est de la ville où 450 000 Gazaouis ont été évacués vers des zones humanitaires en prévision des combats.
Sur le terrain, justement, l'armée a détruit 80 cibles terroristes ces dernières 24 heures dans le territoire palestinien.
Des dizaines de membres du Hamas ont été tués à Jabalia, dans le nord, où l'organisation tente de se réimplanter. Idem à l'est de la ville de Rafah, où des infrastructures du Hamas ont également été détruites, dont un camp d'entraînement. Daniel Agari, le porte-parole de l'armée.
Depuis le début de l'opération à Rafah, les forces ont éliminé une centaine de terroristes, détruit des lanceurs, localisé une dizaine de routes terroristes souterraines et de nombreuses armes, notamment des missiles anti-chars, des roquettes, des explosifs et bien plus encore. Nous sommes engagés dans la destruction des infrastructures souterraines et des armes.
Daniel Agari hier en conférence de presse. En revanche, l'opération menée dans le quartier de Zeitoun à Gaza City a pris fin. Lancée il y a 6 jours, elle avait pour but d'éliminer des cellules du Hamas qui s'y étaient réimplantées. 4 soldats ont été tués dans une explosion au cours des manœuvres. Notez également que plusieurs roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers la ville de Sderot dans le sud d'Israël. C'était dans la matinée. Si un immeuble en construction a été touché, aucun blessé n'a été signalé.
Voilà pour Gaza. Sur le front nord, le Hezbollah a lancé une 60aine de missiles contre la région du Mont Meron et Biranit ce matin.
Des roquettes lancées contre des positions militaires israéliennes en réponse à l'élimination par Tsahal d'un haut commandant du groupe terroriste dans la nuit. Hossein Ibrahim Meshi, chargé de superviser les attaques contre Israël depuis le sud du Liban. Il a été éliminé dans une frappe aérienne contre le véhicule dans lequel il circulait dans la ville de Tyr. Au total, 300 membres du Hezbollah ont été tués par l'armée israélienne depuis le début de la guerre.
Et au Liban, le chef du Hezbollah a rencontré un adjoint du chef du Hamas.
Objectif, discuter de la poursuite des combats et des derniers développements à Gaza, ainsi que des négociations pour un cessez-le-feu qui sont pour l'instant au point mort. Pour Hassan Nasrallah, il n'y aura pas de solution dans le nord sans un arrêt de la guerre à Gaza. On écoute le chef du Hezbollah.
Le véritable objectif numéro un du front du Liban est de continuer à faire pression sur l'ennemi pour qu'il arrête la guerre à Gaza. C'est pourquoi le lien est toujours là entre les deux fronts. Personne ne pourra les dissocier. Les pressions internes au Liban n'ont pas donné de résultats. Les intimidations n'ont pas donné de résultats. Les publicités des sionistes et de certains Libanais n'ont pas porté de fruits et ne porteront pas de fruits.
Je vais te lancer.
Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, traduit par I24 News.
Les États-Unis s'apprêteraient à fournir des armes à Israël pour un montant d'$1 milliard, l'équivalent de 920 millions d'euros.
Une information révélée par le Wall Street Journal qui intervient une semaine après que le président Joe Biden ait menacé de suspendre les livraisons d'armes offensives à l'État hébreu en cas d'invasion à grande échelle de Rafah. Néanmoins, une livraison de bombes est toujours en suspens. Le Congrès doit encore approuver cet envoi d'armes d'une valeur de $700 millions ou 647 millions d'euros, auxquels s'ajoutent $500 millions pour des véhicules militaires tactiques.
Le Congrès américain qui a par ailleurs lancé hier une enquête sur les organisations derrière les manifestations anti-israéliennes qui ont secoué les campus américains ces dernières semaines.
Une enquête sur 20 groupes à but non lucratif qui financent et soutiennent le mouvement de contestation universitaire. Le Congrès réclame notamment aux autorités fédérales de mettre à sa disposition tout document interne susceptible de prouver que ces organisations sont impliquées dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Parmi les groupes cités figurent Students for Justice Peace in Palestine, American Muslims for Palestine, la Jewish Voice for Peace ou encore Samidoun. Les deux premières organisations sont poursuivies en justice par des victimes israéliennes du terrorisme qui affirment que ces groupes servent de collaborateurs et de propagandistes pour le Hamas.
En France, après la vandalisation du mur des Justes au mémorial de la Shoah à Paris hier, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, dénonce un antisémitisme devenu banal.
Pour rappel, des mains rouges ont été taguées sur le mur, sur des façades d'écoles, de crèches, mais aussi d'immeubles dans le 4e arrondissement de la capitale dans la nuit de lundi à mardi. Une enquête a été ouverte et les condamnations ont été nombreuses. Pour le président de la République, Emmanuel Macron, dégrader le mur des Justes parmi les nations, barrage des Lumières contre le nazisme, c'est porter atteinte à la mémoire de ces héros comme à celle des victimes de la Shoah. La République demeurera inflexible face à l'odieux antisémitisme. Déclaration donc du chef d'État sur le réseau social X. Depuis le 7 octobre, il y a une augmentation des menaces contre le mémorial, assure son directeur Jacques Fredge.
Il y a une augmentation des actes antisémites, 300% pour les trois premiers mois de l'année 2023. Nous-mêmes, nous avons été frappés par quatre actes antisémites. Et avant celui-là, c'était un tir contre la façade de notre bâtiment qui est à Drancy, en face de l'ancien camp d'internement de la majorité des Juifs de France avant leur déportation pour Auschwitz. Mais il faut que ces petits nazis avec ces petits pieds, comme disait Simone Veil, sachent qu'ils ne nous font pas peur, que nous continuerons à enseigner les conséquences de l'antisémitisme et du racisme, parce que nous croyons à ce combat contre le racisme et l'antisémitisme. Nous sommes un lieu de connaissance et justement nous sommes là pour nous opposer aux confusions historiques, donner un sens aux mots.
Jacques Fredge, le directeur du mémorial de la Shoah, au micro d'LCI ce matin.
En Nouvelle-Calédonie, on vient de l'apprendre, Emmanuel Macron décide de déclarer l'état d'urgence.
Trois personnes sont mortes après une nouvelle nuit de violence. Violence qui secoue l'archipel depuis lundi. Un gendarme a lui été grièvement blessé par balle en fin de matinée dans le secteur de Plume. Son pronostic est vital et engagé. En métropole, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit par 351 voix contre 153 le texte controversé qui élargit le corps électoral à Nouméa. Dans un courrier adressé aux représentants calédoniens, Emmanuel Macron a précisé que le Congrès se réunirait avant la fin du mois de juin pour adopter définitivement le texte.
L'émotion perdure après l'attaque d'un fourgon dans l'heure hier. Les agents pénitentiaires, les avocats et les magistrats ont observé une minute de silence.
En signe de soutien aux deux fonctionnaires tués, l'ensemble des organisations syndicales de l'administration pénitentiaire ont appelé à une journée prison morte aujourd'hui, éventuellement reconductible. Et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'apprête à recevoir l'intersyndicale. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui affirmé ce matin avoir mis beaucoup de moyens pour retrouver non seulement la personne qui s'est évadée, le délinquant Mohamed Amra, mais aussi le gang qu'il a libéré dans des conditions ignobles. On l'écoute.
Pour donner une idée, il y avait plus de 450 policiers et gendarmes, rien que pour le département de l'Eure, qui faisaient travail de recherche. Désormais, il y a énormément de traces judiciaires qui vont nous permettre de faire ce travail d'identification. Et je l'espère, dans les jours qui viennent, pouvoir non seulement réinterpeller la personne qui était dans ce fourgon, mais qui devait répondre de ses actes devant la justice, mais évidemment du gang de meurtriers qui l'a accompagné.
Le ministre de l'Intérieur ce matin au micro de nos confrères de RTL.
Merci Tanit. On vous retrouvera dans 20 minutes pour le rappel des titres à suivre la politique.
Radio J. Steve Nadjar.
Et c'est Franck Riester qui était ce matin l'invité de Christophe Barbier dans le morning de Radio J. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a notamment livré son analyse sur ces vagues de violence en Nouvelle-Calédonie. On l'écoute.
Il faut, comme le réclame Sonia Baquès, la présidente de la région Sud, déclarer l'état d'urgence.
Écoutez, moi, Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, est en charge évidemment du retour au calme et à l'ordre. Et je lui fais toute confiance pour prendre les dispositions qui s'imposent en fonction de la situation. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un couvre-feu le soir et que, en ce qui concerne la mobilisation des forces de l'ordre, de police, de gendarmerie, elle est totale. Et la mobilisation donc de l'État est totale. On ne peut pas accepter cette situation qui est intolérable. Le président de la République, d'ailleurs, s'est exprimé suite au vote à l'Assemblée nationale, vous le savez,
tout à fait.
Projet de loi constitutionnelle d'élargissement du corps électoral.
Le corps électoral avait été gelé en 2007 en prévision des trois référendums. Ils se sont tenus. Le rattachement à la France a été proclamé trois fois. on réélargit le corps électoral à de nouveaux électeurs.
Voilà, dans le cadre évidemment du respect de la démocratie. Le président de la République a dit qu'il ne réunirait pas le Congrès. Vous savez qu'il y a eu un vote au Sénat, un vote à l'Assemblée, donc on pourrait réunir le Congrès pour entériner cette réforme constitutionnelle.
Pas avant la fin juin, a-t-il dit.
Pour laisser le temps, encore une fois, au dialogue, au débat, aux négociations entre loyalistes et indépendantistes, pour peut-être avoir un projet plus large, plus ambitieux d'une certaine façon, sur les réformes institutionnelles pour la Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est un signal à la fois de volonté de rétablir l'ordre en Nouvelle-Calédonie et en même temps de main ouverte au dialogue et à la discussion pour permettre de sortir par le haut de cette situation.
Il faudrait quasiment de nouveaux accords de Matignon.
Écoutez, les noms, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que suite à ce troisième référendum d'autodétermination, la place a été faite au dialogue et à la négociation pour pouvoir permettre d'aller plus loin dans la réforme institutionnelle, avoir finalement des institutions nouvelles pour la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas eu suffisamment pour l'instant d'accord. Là, il y a une belle opportunité à se saisir de ce vote du Parlement français pour aller plus loin et trouver les voies qui permettront à la Nouvelle-Calédonie, dans la République, de s'inscrire dans l'avenir.
L'autre actualité tragique, c'est l'évasion de Mohamed Amra avec deux morts, deux gardiens, deux membres de l'administration pénitentiaire tués. Tout le monde a vu les images d'une violence inouïe. Qu'est-ce que ça signifie sur notre société ?
Je sais pas, sur la société, c'est le monde entier où, du fait du trafic de drogue, il y a une violence exacerbée, avec des pratiques qui sont évidemment terribles, horribles, qui nous ont tous marqués. On a tous été frappés. Moi, il se trouve que j'étais en visite à Val-de-Reuil pour visiter une entreprise américaine qui investit dans des nouvelles chaînes de production.
Vous étiez tout près, donc.
J'étais tout près et je peux vous dire que tout le monde a été sidéré. Et les Français entiers, dans leur intégralité, ont été sidérés par ce qui s'est passé. Il y a une mobilisation totale de l'État pour retrouver et sanctionner évidemment celui qui s'est évadé et ses complices. Évidemment, nous sommes aussi tous avec les victimes, avec leurs familles et avec tous les agents pénitentiaires qui font un travail remarquable, difficile et avec qui nous sommes en totale solidarité aujourd'hui.
C'était le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Franck Riester, ce matin sur Radio J. Christophe Barbier, que vous retrouverez dès demain à partir de 7h45.
La séance est ouverte.
Chassez de vos rangs les nazillons, les racistes, les antisémites.
Nous n'hésiterons pas à déposer une motion de censure.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies.
Honte à vous ! Honte à vous, madame la ministre !
Je n'ai jamais dit qu'Israël avait un droit absolu.
Hémicycle.
La politique avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud.
Bonjour Steve.
Et merci de nous rejoindre en direct, comme chaque mercredi. Vous êtes professeur associé à Panthéon, à Paris-Sorbonne, et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Arnaud, Emmanuel Macron a convoqué ce matin un conseil de défense face aux émeutes en Calédonie. Il vient de déclarer l'état d'urgence. C'est une décision qui était urgente à prendre, justement.
Ben oui, au regard de la situation totalement explosive et hors de contrôle, en tout cas au moins dans le sud du Caillou, c'est-à-dire à Nouméa principalement, l'exécutif n'avait plus d'autre choix que finalement de procéder à la mise en place de l'état d'urgence, comme d'ailleurs entre un certain nombre de responsables politiques, à la fois en Nouvelle-Calédonie, mais aussi ici en métropole. Ce sont des images qui nous rappellent évidemment celles que l'on a connues pour ceux qui étaient bien évidemment en
à la fin des années 80.
De pouvoir être, c'est-à-dire au début des années 80, c'est-à-dire 88, avec une situation où on a deux communautés qui aujourd'hui sont face à face et qui s'affrontent. Il faut se poser la question de la raison pour laquelle on est arrivé là. Manifestement, si vous voulez, la question du dégel du corps électoral constitue pour la communauté kanak et en tout cas pour un certain nombre de responsables politiques, notamment du FLNKS, un chiffon rouge.
Pour quelle raison, Arnaud ?
Dans le même temps. Ben, tout simplement parce que la réalité, c'est que à partir du moment où vous faites entrer à peu près 42 000...
Alors, on a perdu visiblement la connexion... avec Arnaud Benedetti. Arnaud, on a perdu la connexion pendant quelques secondes et on a donc raté vos deux dernières phrases sur les raisons qui motivaient la...
les protestations.
Oui, la raison, c'est qu'à partir du moment, le dégel du corps électoral implique le fait de faire 42 000 électeurs nouveaux. Donc, à partir de là, c'est près d'un cinquième du corps électoral qui est modifié et qui, bien évidemment, va quelque part modifier les rapports de force politique sur l'île. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, les responsables indépendantistes s'opposent dans le moment à cet élargissement du corps électoral qui, néanmoins, est compréhensible sur un plan démocratique, parce que vous avez des gens qui sont là, qui sont nés, qui payent des impôts, qui ont une activité économique, qui ont une activité citoyenne et qui, bien évidemment, doivent pouvoir participer aux élections provinciales. Alors, peut-être on peut se poser la question de la méthode. N'aurait-il pas fallu attendre plutôt que de faire voter le Parlement tel qu'on l'a fait voter, c'est-à-dire le Sénat, au mois d'avril, a voté cette réforme constitutionnelle. L'Assemblée vient de la voter hier soir. Mmh. Le président de la République vient d'annoncer son gouvernement qu'il allait sursoir, en tout cas, dans le moment, à la convocation du Congrès. Peut-être eût-il fallu attendre un accord entre les principales parties prenantes pour ensuite engager cette réforme du dégel du corps électoral.
On a voulu aller trop vite du côté de l'exécutif.
Oui, mais alors c'est vrai que si vous voulez, ce qui peut-être apparaît, en tout cas du côté kanak, c'est que l'exécutif a donné le sentiment finalement de ce qui avait été à l'origine des accords de Matignon en 88 puis en 98, c'est-à-dire d'avoir un État qui était un État qui était considéré comme impartial. Là, en l'occurrence, le soupçon qui pèse sur l'action de l'exécutif, en tout cas soupçon qui est véhiculé par les indépendantistes, c'est que cette fois-ci, l'exécutif a de fait finalement donné quitus sans discussion à une revendication qui est la revendication notamment de ce que l'on appelle les loyalistes. D'autant plus que, bon, on a eu Madame Baquès qui a été nommé secrétaire d'État, qui ne l'est plus puis depuis qu'elle a perdu son poste de sénateur. Le rapporteur de la loi est un député de Renaissance, lui-même issu de la communauté caldoche. Donc ce soupçon, si vous voulez, de partialité, manifestement, a vraisemblablement aussi, j'allais dire, quelque part, renforcé peut-être les tensions dans lesquelles la Nouvelle-Calédonie.
Arnaud Benedetti, l'actualité est également dominée aujourd'hui par d'autres violences, celles ayant visé un fourgon pénitentiaire hier dans l'Eure et qui ont coûté la vie à deux agents. Le prisonnier Mohamed Amradi Lamouche et les assaillants sont toujours en cavale. Qu'est-ce que nous dit cette attaque, Arnaud, alors que plusieurs centaines de surveillants pénitentiaires bloquent aujourd'hui leur établissement dans le pays pour une journée prison morte?
Elle nous dit qu'il existe aujourd'hui dans ce pays une organisation de narcotrafiquants qui sont clairement prêts à tout et qui sont prêts à en découdre avec l'autorité de l'État. Ces images, chacun aura pu les voir, sont extrêmement impressionnantes, d'une rare violence, et elles montrent que finalement ces gens-là aujourd'hui sont en tout cas disposés à entretenir un rapport de force si besoin avec l'État et l'autorité de la République. On sait qu'il y a un rapport sénatorial vient d'être publié qui montre qu'aujourd'hui l'organisation du système narcotrafiquant est une organisation de type évidemment mafieuse, très pyramidale, qui bénéficierait, si en tout cas l'on regarde les conclusions de ce rapport, c'est parfois de ramifications dans des milieux où on ne s'attend pas à ce qu'ils aient ces ramifications.
Avec donc le risque de former une contre-société.
Oui, on est véritablement face à une contre-société de type mafieuse telle qu'on a pu par exemple la connaître par exemple dans le sud de l'Italie ou en Sicile notamment. On a là finalement un phénomène qui est nouveau. Le trafic de drogue a toujours existé, enfin il existe depuis une cinquantaine d'années dans la société française et dans de nombreuses sociétés. Mais là, ce qui quand même frappe véritablement les observateurs et les analystes, c'est que il semblerait qu'on change, si vous voulez, de dimension, et quelque part les images, encore une fois, extrêmement spectaculaire et dramatique que cette attaque, je dirais.
On a perdu la connexion, visiblement la connexion vidéo avec Arnaud Benedetti. Je rappelle Arnaud, vous êtes...
sont révélatrices.
Alors on vous retrouve, Arnaud, vous avez perdu ces dernières secondes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Très bon après-midi à vous.
Merci à vous.
Radio J. Steve Nadjar. Radio J.
Après la politique, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du Grand Journal. Nous serons en compagnie notamment de Pascal Zunshine pour le direct de Jérusalem. Restez avec nous, vous êtes bien sur Radio J. A tout de suite.
Radio J, le 6-9, Hélène Aferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J. Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Radio J. Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Radio J.
Merci d'être avec nous pour la deuxième partie du Grand Journal. Nous sommes en direct et vous pouvez nous écouter notamment sur le DAB et nous suivre en vidéo sur notre chaîne YouTube. Direction maintenant Jérusalem.
Radio J.
Ose shalom bimrovmav.
Nous, ikablu. Noit nous, noit ikablu.
חברים, החדשות טובות. התחלנו לבלום את הדלטה.
ילדינו מסתכלים עליה. מה אנחנו רוצים שהם יראו?
פסקל זונשיין.
Bonjour Pascal.
Bonjour Steve.
Et merci de nous rejoindre en direct comme tous les après-midi depuis Jérusalem. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal Tzal a confirmé ce matin avoir éliminé un haut commandant du Hezbollah dans une frappe aérienne contre la ville de Tyr.
Et le Hezbollah a tiré à la mi-journée environ 60 roquettes et missiles anti-chars sur la Haute-Galilée visant Kiryat Shmona et ses environs, ainsi que le secteur de Meron où se trouve une base de contrôle aérien de Tsahal et d'autres localités au-delà du périmètre évacué depuis le mois d'octobre. Plusieurs roquettes, dont des roquettes Burkan de forte puissance, ont été interceptées par la défense anti-aérienne. D'autres sont tombées en zone inhabitée. Il n'y a pas eu de blessés. Le Hezbollah a donc affirmé avoir riposté à l'élimination hier soir par l'aviation de Tsahal de l'un de ses chefs locaux dans la ville de Tyr, au sud Liban, une frappe effectuée après le tir de deux missiles anti-chars hier contre le kibboutz Adamit qui avait coûté la vie à un civil israélien et blessé 5 soldats. C'est la 25e victime israélienne depuis le début de la guerre, alors que 6 Israéliens ont été tués dans des attaques de la milice chiite seulement depuis la mi-avril. Hier, plusieurs centaines d'habitants de Haute-Galilée avaient manifesté pour protester contre la précarité de leur situation. Pas de sécurité, pas de perspective sur une date de retour chez eux, alors que la guerre impacte non seulement la situation économique des localités frontalières évacuées, mais aussi celle de l'ensemble de la région. Et ce, alors qu'à Beyrouth, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reçu aujourd'hui une délégation du Hamas conduite par le numéro 2 de Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, pour poursuivre la coordination des fronts entre Israël à la frontière libanaise et à Gaza.
Dans la bande de Gaza, à présent, Pascal, un soldat est tombé à Rafah, le premier dans cette ville. Il s'agit du sergent Ira Yair Gispan Zichrono Livracha.
Trois divisions de Tsahal opèrent actuellement au nord, au centre et au sud de la bande de Gaza. Hier, le sergent Ira Yair Gispan, 19 ans, a été tué par un tir de missile du Hamas à l'est de Rafah, où Tsahal poursuit son opération depuis 10 jours. Plus au nord, à Zeytoun, une partie des troupes israéliennes s'est retirée après une série d'incursions. À Jebalia, les combats continuent avec de nombreux accrochages. Au cours des dernières 24 heures, l'aviation de Tsahal a effectué environ 80 frappes ciblées contre des positions et des terroristes du Hamas, ce qui n'a pas empêché l'organisation terroriste de tirer des roquettes à 3 reprises. Ce matin, contre Sderot et des localités de l'ouest du Negev, 2 femmes ont été légèrement blessées. Un immeuble, heureusement inhabité, a été touché à Sderot.
Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct depuis Jérusalem. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi et à demain.
À demain.
Radio J, le grand journal, Steve Nadjar.
On continue à s'intéresser à l'actualité israélienne. Bonjour Chen Feder.
Bonjour Steve.
Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On vient d'évoquer avec Pascal Zunshine l'élimination par l'aviation israélienne d'un haut responsable du Hezbollah au Liban. C'est la preuve, Chen Feder, de la détermination israélienne à faire plier l'organisation terroriste d'Hassan Nasrallah et de l'obliger à se retirer totalement de cette zone.
Et dans le nord, notre objectif est clair. On veut trouver la manière avec laquelle on peut continuer avec la résolution 1701 de
l'ONU. Votée en 2006 après la deuxième guerre du Liban.
Exactement. Pour n'avoir pas des terroristes de Hezbollah à côté de notre frontière. Nous, comme ambassade d'Israël en France et comme ministère des Affaires étrangères, on essaie de trouver des façons avec nos alliés et des façons, on peut dire, diplomatiques pour obtenir cet objectif. Mais en même temps, et si on ne trouve pas ce schéma diplomatique, on va continuer avec notre armée pour obtenir cet objectif.
Un chemin diplomatique, dites-vous, notamment à côté de la France ?
Notamment à côté de la France, des États-Unis, et d'Angleterre et d'Allemagne.
Dans ce cadre-là, Chen Feder, est-ce qu'Israël pourrait accepter que le Hezbollah ne se retire qu'à 10 km de la frontière, comme l'aurait proposé le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, lors de sa dernière tournée dans la région ?
Et sans entrer dans le spécificité, on ne peut pas vraiment accepter une situation où le Hezbollah pourrait tirer sur le nord d'Israël. On veut relancer l'éducation dans le nord d'Israël et trouver le manière avec laquelle on peut avoir nos citoyens dans leur ville. Et au nord d'Israël.
Ce qui veut dire que ça sera l'application de toute la résolution 1701 ou un chemin, non pas diplomatique, mais militaire pour résoudre cette crise.
J'espère que ça sera il y a les deux options, exactement ça.
Alors, je voudrais également vous interroger sur la bande de Gaza. On a évoqué l'évolution de la campagne militaire israélienne à Rafah. L'ONU, a publié le 8 mai une mise à jour de son bilan des victimes palestiniennes de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza depuis les massacres du 7 octobre. On y lit que 4959 femmes et 7797 enfants ont été tués, victimes collatérales des attaques contre le Hamas. C'est près de 50% de moins que les chiffres qui avaient été précédemment publiés par les Nations Unies et qui s'appuyaient donc sur les seuls chiffres du Hamas. Quelles conclusions en tirez-vous de la manière dont travaille notamment l'ONU?
Je suis ravi de discuter ce sujet qui m'inquiète beaucoup, me dérange beaucoup depuis le début de cette guerre. Il y a des gens qui continuent d'utiliser les chiffres de Hamas. Et des chiffres qui ne sont pas exacts, on peut pas compter sur ces chiffres. Et en même temps, on évite que dans ces chiffres, il y a aussi un, deux ou milliers de terroristes. Et dans ce cas, et moi, je trouve que les gens qui continuent de dire les chiffres qui ne compte pas, ne fait pas de distinction entre les terroristes et les citoyens, ça veut dire que ça serve la propagande.
Il sert la propagande du Hamas.
C'est exactement ça. Quand on dit que c'est 30 000, et je pense que c'est
32 000 ou 34 000,
pas importe, et des citoyens qui étaient tués, ça, c'est la propagande de Hamas.
Et vous pensez que ça va évoluer avec cette mise à jour de l'ONU?
Nous ne pouvons pas compter sur les chiffres de l'ONU parce qu'il utilise les chiffres de Hamas. Alors, j'espère qu'on va prendre, les autres gens vont prendre plus de prudence avec ces chiffres à l'avenir.
Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi.
Merci, Steve.
5h30. Bonjour et bon réveil. Merci d'être avec nous dans le Grand Journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. À suivre, le rappel des titres. Un nouveau point sur l'info, signé Tanit Belaïch. Bonjour Tanit.
Bonjour Steve, bonjour à tous. Le Hezbollah a lancé une soixantaine de missiles contre le nord d'Israël ce matin, en particulier vers des bases de Tzahal à Meron et à Bir Hanit. Aucun blessé ni dégât matériel n'a été signalé. Cette attaque fait suite à l'élimination par les forces israéliennes d'un haut responsable du groupe chiite dans la nuit à Tyr dans le sud du Liban. L'Union européenne exhorte Israël à cesser immédiatement son opération militaire à Rafah, ville la plus au sud de la bande de Gaza. La poursuite de l'opération mettrait inévitablement à rude épreuve la relation de l'Union avec Israël, selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. L'Irlande va reconnaître un État palestinien avant la fin du mois, déclaration ce matin du ministre des Affaires étrangères irlandais sans préciser la date. Il y a deux mois, les dirigeants de l'Espagne, de l'Irlande, de la Slovénie et de Malte avaient déclaré dans un communiqué commun être prêts à reconnaître la Palestine comme un véritable État. Enfin, en France, Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, archipel secoué par des émeutes depuis lundi, alors qu'un projet de loi élargissant le droit de vote sur le territoire a été adopté par l'Assemblée nationale. Toutes les violences sont intolérables et feront l'objet d'une réponse implacable pour assurer le retour de l'ordre républicain, a assuré le chef de l'État.
Merci Tanit. Prochain journal sur Radio J à 15h.
Radio J.
Le grand journal, Steve Nadjar.
Et Tanit, vous restez avec nous pour votre portrait d'otage du jour. Voilà 222 jours que 128 personnes sont détenues par le Hamas et le djihad islamique à Gaza. Un tiers d'entre elles seraient mortes. Quatre autres sont détenues sur place depuis bientôt 10 ans. Et vous nous présentez cet après-midi une jeune otage, Karina Ariev.
Avant le 7 octobre, Karina, 19 ans, habitait à Jérusalem avec sa famille. Caporal à Tzahal, elle servait depuis un an à la base de Nahal Oz, à quelques kilomètres du sud de la bande de Gaza. Et il lui est resté encore quelques semaines avant de terminer son service militaire. Son travail d'alors, surveiller la frontière gazaoui via des caméras et donner des indications aux soldats sur le terrain. Mais le 7 octobre, vers 7h, elle va appeler ses parents et leur expliquer que des terroristes ont pris le contrôle de sa base, que les balles et les roquettes pleuvent. Retranchée dans un abri anti-bombe, elle dit...
Elle pleure, dit qu'elle nous aime de tout son cœur et nous demande de continuer à vivre nos vies.
C'est ce que racontera sa mère aux médias israéliens quelques jours après avoir appris son enlèvement, avant de préciser.
À 7h40, nous n'arrivions déjà plus à échanger avec elle. Nous ne savions pas qui appeler.
La famille de Karina, sans nouvelles, va finir par tomber sur une vidéo du Hamas diffusée sur Telegram, dans laquelle trois jeunes femmes sont allongées dans une jeep entourées d'hommes qui parlent arabe. C'est le choc quand ils reconnaissent Karina dans le lot, le visage blessé et ensanglanté. Deux jours plus tard, un représentant de Tzahal leur confirme que Karina a bien été kidnappée par le Hamas.
Après avoir vu la vidéo de Karina, nous avons senti que le Hamas avait pris une partie de son âme, qui ne reviendrait peut-être jamais. Nous prions pour qu'elle rentre saine et sauve, mais elle ne sera plus jamais la même personne, elle sera traumatisée, elle sera marquée.
Témoignage de la sœur de Karina, Alexandra, qui elle aussi se confie aux médias israéliens au premier jour de la guerre. Depuis, le Hamas a publié une nouvelle vidéo de Karina, une vidéo de propagande où elle implore le gouvernement israélien d'agir pour sa libération. C'était fin janvier. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Je m'appelle Karina, je suis une soldate de 19 ans, originaire de Jérusalem. Et le 7 octobre, j'ai été kidnappée à la base de Nahal Oz. Je suis ici depuis 107 jours parce que les gens qui étaient censés me ramener à la maison m'ont abandonné et continuent de m'abandonner encore aujourd'hui. J'ai peur de mourir, je suis constamment sous le feu des bombardements de chars. Je cours d'un endroit à l'autre parce que vous n'arrêtez pas la guerre.
Ce témoignage avec les effets sonores que vous avez pu entendre, un phrasé, des mots, des incriminations communes à d'autres vidéos d'otages publiées par le Hamas, tout cela fait partie de ce qu'Israël considère être une guerre psychologique dont Karina Ariev n'a certainement pas voulu faire partie. Mais voilà, en ce 222e jour de guerre, elle est toujours détenue par les terroristes du Hamas. Alors, ce que nous pouvons faire de notre côté, c'est prier pour que tous les otages soient enfin libérés et que cette guerre prenne fin le plus vite possible.
On l'espère avec vous. Merci Tanit.
Radio J.
Radio J.
C'est l'heure de marquer une pause. Juste après quelques pages de pub, mon invité sera le politologue Pascal Perrineau pour son livre Le goût de la politique. Vous écouterez également Rémi Sembaum. Le Grand Journal revient dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Bonjour.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Menace sur les démocraties. C'est le thème de la conférence de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, organisée par le Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, mercredi 15 mai à 19h30. Menace sur les démocraties. Mercredi 15 mai à 19h30 au Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, 11 rue du 8 mai 1945, Saint-Lenri-Gozlan.
Acib Créteil.
Acib Créteil.
01 43 77 01 70.
Radio J.
Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Radio J.
Merci d'être avec nous en direct pour la troisième et dernière partie du Grand Journal. Émission que vous pouvez écouter notamment sur l'application gratuite Radio Player France. Place maintenant à l'entretien de cette édition.
Radio J, l'invité du Grand Journal.
Radio J. Steve Nadjar.
Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes politologue, vous avez notamment dirigé le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, le CEVIPOF, et j'ai le grand plaisir de vous recevoir à l'occasion de la parution aux éditions Odile Jacob de votre nouveau livre intitulé « Le goût de la politique », un observateur passionné de la Ve République, un ouvrage récompensé tout récemment par le prix du livre politique et dans lequel vous revenez sur votre parcours familial et professionnel, sur vos origines, vos premiers attachements politiques et sur les objets d'analyse auxquels vous avez consacré votre vie de chercheur puis d'enseignant. Vous êtes ainsi l'un des pionniers de l'analyse scientifique de la percée du Front National à partir du milieu des années 80. Vous confiez que votre mémoire personnelle est davantage rythmée par des références électorales que personnelles, comme si, pour le dire autrement, que la politique relevait pour vous du ressort de l'intime. Vous êtes très français en ce sens.
Oui, très, très français, mais aussi très caractéristique de ces enfants qui sont nés dans les années 50 et qui avaient comme parents des parents qui avaient connu le drame de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les fractures de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on parlait beaucoup de politique à la maison, même quand j'étais tout petit. On parlait, parce que même lorsqu'on n'était pas très politisé, les gens de la génération de mon père ou de ma mère, bien la politique était venue à eux et à elles, dans les conditions parfois tragiques.
On ne pouvait pas être dépolitisé à l'époque.
On parlait de politique vraiment tous les jours. On parlait beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, des drames de la Seconde Guerre mondiale. Ma mère, qui était née en Alsace-Lorraine, comme moi, était devenue allemande pendant la guerre. Vous vous rendez compte du traumatisme. Elle avait perdu sa nationalité, elle avait été passer son bac au fin fond de l'Allemagne nazie, et elle était envoyée, comme beaucoup de jeunes Alsaciens lorrains dans lesquels les Allemands n'avaient pas confiance, elle avait été envoyée dans une famille allemande, et elle avait 16 ans, 17 ans, pour être nazifiée. C'était ça l'ambition tout de même. Donc, ça avait laissé des traces, et on en parlait énormément à la maison, et en 58, voilà, j'ai 8 ans, et c'est le début de la Ve République. Donc, quelque part, cette appétence familiale pour la politique va trouver une résonance dans le collectif, dans ce qui se passe en France en 1958 avec la naissance de la Ve République. Et c'est là où l'histoire personnelle commence à se tisser avec l'histoire collective.
Et vous êtes très marqué par la figure du général de Gaulle que vous rencontrez, tout jeune donc, à côté de votre père à Tours, père qui est un fervent admirateur du fondateur de la Ve République. Vous êtes attentif plus tard à la modernité de Jacques Chaban-Delmas, puis au charisme de François Mitterrand, de sa hauteur de vue, même si vous quittez rapidement le champ militant. Est-ce que vous êtes aujourd'hui parfois lassé par une certaine médiocrité du débat public, par son affaissement, par le manque de vision peut-être aussi ?
Non, bien sûr, et en cela, je ne suis pas original. Je partage le sentiment de lassitude que ressentent beaucoup de Français vis-à-vis du spectacle que donne la vie politique. Regardons, par exemple, le spectacle que donnent nombre de forces politiques à l'occasion des élections européennes. C'est parfois tout à fait affligeant. Cette incapacité, en particulier, à parler du sujet. Le sujet, c'est tout de même élire un Parlement européen dans une Europe menacée par la guerre en Ukraine, dans une Europe menacée par la remise en cause de sa culture, de ses valeurs, des grands principes qui nous rassemblent entre peuples européens. Et il y a là quelque chose d'assez affligeant. Et au fond, je regarde avec une certaine nostalgie, oui, les années 60 et les années 70, dans lesquelles il y avait, à gauche et à droite, vous voyez, c'est pas une question de gauche et de droite, il y avait tout de même des figures de la politique qui étaient davantage à la hauteur des grands enjeux collectifs. Ça tenait peut-être au fait que des hommes comme De Gaulle, Giscard, comme Mitterrand, étaient des hommes qui avaient connu le tragique de la Seconde Guerre mondiale et qui donc savaient se hisser dans des circonstances tragiques, et nous y sommes à nouveau aujourd'hui, savaient se hisser à la hauteur des enjeux.
Je le disais en ouverture, vous commencez à travailler à partir du milieu des années 80 sur la montée de l'extrême droite. À partir des européennes de 1984, vous avez suivi toutes les phases de son évolution jusqu'à sa notabilisation actuelle, notamment à l'Assemblée nationale. Est-ce que le résultat des européennes de juin aura des conséquences, selon vous, sur la présidentielle de 2027? Est-ce qu'on pourra proposer une lecture nationale de ce scrutin?
On pourra proposer une lecture nationale. Ça ne veut pas dire que la prochaine présidentielle sera la réplique, bien sûr, des élections européennes. Les élections européennes, c'est des élections à un tour, c'est des élections à la proportionnelle, c'est des élections au scrutin de liste. Ça n'a rien à voir, en effet, avec une présidentielle. Mais une fois qu'on a dit cela, on s'aperçoit au fond que depuis les années 2010, il y a une poussée régulière, quel que soit le type d'élection, une poussée régulière et extrêmement forte du Rassemblement National, qui fait qu'aujourd'hui, c'est la première force politique française. Et aujourd'hui, les sondages montrent que même l'avance maintenant prise par le Rassemblement National sur les autres mouvements, et en particulier la majorité, les grands partis de gauche, etc., est devenue gigantesque. C'est plus de 10 points. La liste emmenée par Jordan Bardella semble écraser même le match. Ça laissera des traces dans les années qui viennent et pour le prochain scrutin présidentiel.
Et est-ce que le duel télévisé la semaine prochaine entre Gabriel Attal, le Premier ministre, et Jordan Bardella va être, de ce point de vue-là, un moment important ?
Oui, parce que ça marque un changement de génération. On voit bien qu'il y a besoin, d'ailleurs, dans la politique, d'un changement de génération, et que là, on ne peut pas laisser au Rassemblement National le monopole de la jeunesse. Et Gabriel Attal, en acceptant cette confrontation avec Jordan Bardella, montre que aucune force politique en France ne peut monopoliser la jeunesse à son seul profit.
Vous écrivez, Pascal Perrineau, que l'extrême droite a toujours attiré des tempéraments autoritaires. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Oui, il y a certainement, si vous voulez, quand on est dans une situation de crise de la démocratie représentative, qu'il y a une certaine lassitude, j'en parlais même pour moi, vis-à-vis du spectacle politique, eh bien on peut ou bien se retirer, c'est le mouvement d'abstentionniste phénoménal auquel on assiste, vous verrez, le 9 juin, ça sera la même chose, un Français sur deux à peu près s'abstiendra, et chez les jeunes, aujourd'hui, c'est 70% des jeunes qui prévoient de s'abstenir aux abstentions européennes. Donc, ou bien on peut se retirer, ou bien on peut rêver d'autres chose. Et si on rêve d'autre chose que de la paisible démocratie représentative, eh bien on rêve de régime autoritaire. Et on voit bien qu'il y a une pulsion autoritaire, en particulier auprès des extrêmes, que ce soit l'extrême gauche. On voit bien comment la France insoumise n'a comme modèle à peu près que des dictatures, quand elle parle du Venezuela, quand elle parle tout de même, il n'y a pas très longtemps, elle parlait de sa fascination pour Poutine. Donc on le voit bien. Et du côté côté du Rassemblement National, on rêve d'une république pure et dure et d'un régime qui accentuerait le côté vertical, le côté autoritaire. Et on le voit bien dans le projet du Rassemblement National, il y a même la volonté de supprimer pas mal de contrepoids au pouvoir politique et au pouvoir présidentiel. Tout cela montre, oui, qu'au cœur des démocraties, il y a environ quoi, allez, 30% des gens qui rêvent d'autre chose et qui rêvent de régime autoritaire.
Est-ce que vous avez vu la série de Canal+, La Fièvre ?
Oui, je l'ai vu, en effet. Et bon, je ne suis pas un passionné du monde du football, alors le football est extrêmement présent, mais comment dire, c'est une série qui saisit remarquablement l'air du temps et les fractures du temps et l'effet aussi délétère de cette information horizontale liée au réseau.
Diriez-vous qu'une forme de déni a trop longtemps touché une partie de la classe politique et peut-être aussi du monde universitaire sur certaines des causes de la percée du FN puis du RN, qu'il s'agisse de l'augmentation de la pression migratoire ou de l'insécurité?
Bien sûr, il y a comment dire, un politiquement correct qui s'est imposé dans une partie des médias, dans une partie du monde intellectuel et même dans une partie de l'opinion. Et pendant de longues années, il y a même eu un refus de voir les ressorts profond qui pouvait nourrir les inquiétudes d'une partie de Français qui ne sont pas des fascistes, vous voyez, qui ne sont pas des nazis, qui ont simplement des préoccupations vis-à-vis en effet de la pression migratoire, vis-à-vis de la dégradation des mœurs dans la société. Et la force de Marine Le Pen, c'est d'avoir été le symptôme de toutes ces inquiétudes et d'en avoir fait une force politique.
Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à ce qui se passe depuis plusieurs semaines. Peut-être même depuis le 7 octobre, à vrai dire, à Sciences Po, votre maison, c'est comme ça que vous l'appelez dans le livre, antisémitisme, antisionisme radical, blocage, polémique. Quels sont les ressorts de cette crise ?
Alors en effet, j'ai été d'abord surpris en deux temps. D'abord à la suite du pogrom du 7 octobre et de la violence phénoménale de ce pogrom, j'ai été surpris qu'il n'y avait pas de véritable mobilisation en milieu étudiant. Il y a eu une réaction, on l'a vu avec le défilé dans la rue derrière Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, mais enfin, en milieu étudiant, il n'y a pas eu de réelle émotion débouchant sur une mobilisation étudiante pour dénoncer la violence de ce pogrom. Donc ça a été ma première surprise. Ma deuxième surprise est venue quand j'ai vu, en effet, cette mobilisation pro-palestinienne se développer, et là, en revanche, trouver un écho. Et là, je me suis dit, il y a une indignation sélective. Il y a une indignation sélective, presque peu ou pas d'indignation pour les victimes israéliennes du 7 octobre, et une sensibilité extrême aux victimes palestiniennes dans la riposte qui était inévitable de Tsahal à la suite de l'agression du 7 octobre.
Et ça, c'est lié au très fort soutien des étudiants de Sciences Po à Jean-Luc Mélenchon.
Alors, c'est lié. Alors, faut d'abord dire, nous avons 15 000 étudiants. Ceux qui sont activistes véritablement sur ce terrain, le fameux comité Palestine, ça mobilise au maximum 200 étudiants. Mmh. Donc il faut ramener ça à sa juste proportion. Les médias s'en sont emparés, à juste titre. Mais enfin, c'est pas tous les étudiants de Sciences Po. Ce sont, comme d'habitude, des minorités activistes. Mais qui trouvent parfois un écho au-delà de ce noyau de 100 à 200 étudiants. Et un écho en particulier dans des médias qui parfois sont extrêmement complaisants avec ce type de mobilisation. Alors, c'est la traduction de quoi ? C'est la traduction d'abord de jeunes étudiants qui sont à la recherche d'une figure victimaire. Et on le sait, depuis de nombreuses années, le Palestinien a remplacé le prolétaire dans une certaine culture de la gauche. Le prolétaire n'est plus la figure qui mobilise les ardeurs de justice d'une partie de la gauche et de la gauche radicale. C'est de plus en plus le Palestinien. c'est devenu la figure victimaire par excellence. Et ces étudiants qui se sont promenés pendant des semaines, je les voyais en bas de mon bureau, avec des keffiers, étaient tout à fait symptomatiques. Il y avait un phénomène d'empathie et de sympathie vis-à-vis de cette figure. D'identification, mais bien sûr. Alors, il y a une certaine partie des étudiants, en effet, qui peuvent être aussi des Français musulmans. Et on sait, dans la population des Français musulmans, que la proximité vis-à-vis de la Palestine est forte, que les mobilisations sont aisées, et qu'il y a aussi, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, il y a une forme d'antisémitisme presque coutumier, quotidien, dans une partie importante de cette population, qui a redonné un second souffle à l'antisémitisme. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Vous rajoutez à cela l'influence d'étudiants, nous avons un étudiant sur deux qui est étranger, vous rajoutez à cela l'influence d'étudiants, en particulier qui viennent des systèmes universitaires britanniques, canadiens ou américains, dans lequel le wokisme est extrêmement important, l'attrait pour toutes les minorités quelle qu'elle soit, eh bien, vous comprenez mieux ce qui se passe. Et il y a eu ce qui a été, on s'en est pas rendu compte au début. Il y a eu quelque chose de très pervers. C'est la transformation de l'État d'Israël, qui est tout de même la seule démocratie de la région, hein, de l'État d'Israël dans un État dit génocidaire. Ouais. Blanc. La figure juive est passée du statut de dominé au statut archétypal de dominant. Et maintenant, on ne parle plus d'Israël qu'en ces termes. Et ça, c'est pour Israël, pour le devenir d'Israël, c'est quelque chose qu'il va falloir, sur lequel il va falloir réfléchir et lutter dans les semaines et les mois qui viennent.
Merci beaucoup, Pascal Perrion, d'avoir été avec nous. Est-ce que vous pourriez, en une phrase, candidater à la présidence de la Fondation nationale des sciences politiques ?
Non. Non, non. D'abord, c'est la direction de Sciences Po. J'avais essayé d'être candidat à la présidence. Ça n'avait pas été une réussite. On m'avait expliqué déjà le wokisme était en marche. On m'avait expliqué que j'étais pas une femme. C'est une réalité. Et que donc, je n'avais aucune chance d'être président de la Fondation nationale des sciences politiques. Donc, je ne remettrai pas le couvert une deuxième fois.
C'est bien dommage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter votre nouveau livre, Le goût de la politique, dont je conseille vivement la lecture à nos auditeurs. C'est publié aux éditions Olivier Jacob. À très bientôt. Sur Radio J, ce sera au micro de Christophe Barbier.
Merci à vous.
Bon après-midi.
Steve Nadjar.
Politique encore avec Ça reste entre nous, l'émission politique de la radio le mercredi à partir de 21h, au micro notamment de David Revaud-Dallone et de ses chroniqueurs Françoise Degoy. Au menu des échanges, l'hypothèse d'un débat Emmanuel Macron-Marine Le Pen, extrait.
J'ai envie de vous dire, Françoise Degoy, comme Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, c'est du sérieux?
Ça a l'air d'être du sérieux, surtout qu'on apprend par le canard enchaîné, c'est notre camarade Cyril Graziani qui aurait soufflé cette super idée à Emmanuel Macron lors des gens sur Cyril Graziani.
Chef du service politique. De France 2.
Voilà, lui aurait éventuellement soufflé cette idée, aurait émis, lui posé cette question.
C'est une idée de journaliste, il faut un duel, il faut des poids lourds, il faut un affrontement, il faut un combat.
Une vraie idée de journaliste.
Du sang et des larmes.
Après, on a vu que Marine Le Pen ne voulait pas. Finalement, elle se ravise en disant oui, pourquoi pas, à condition qu'on ne parle pas que d'Europe. Moi, je suis vraiment scandalisé, je vais vous le dire honnêtement.
Scandalisé.
Je n'en, même par Attal, le débat, pardonnez-moi, Gabriel Attal, Jordan Bardella, je ne veux pas être injurieuse avec eux. Je suis scandalisé. Objectivement, je n'en peux plus de cette mâchoire infernale, de ce duel, de ce duo de Dupont et Dupont de la politique française. Sérieusement, le RN et Macron. Macron, le RN. Le RN, Macron. Tout ça, finalement, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Tout le monde, ces deux-là sont d'accord. Ces deux formations sont d'accord. Ça castre et ça stérilise complètement le débat politique. C'est tout à fait, comment dirais-je, injuste par rapport aux autres formations. Je parle pas simplement de Glucksmann, je parle aussi d'LFI, je parle
Le problème principal de l'Élysée, c'est Glucksmann. La raison pour laquelle cette idée existe, c'est pour essayer d'éclipser Glucksmann de l'affiche.
Pour vous, c'est ça l'explication.
Oui, c'est ça l'explication. C'est que l'Élysée a peur qu'il y ait un croisement des courbes. Pour l'instant, les sondeurs n'y croient pas, mais les sondeurs ont du mal à voir ce type de croisement. La probabilité, peut-être qu'on aura un croisement des courbes. C'est possible qu'il y ait un croisement des courbes. C'est le scénario qui est redouté par l'Élysée. Pourquoi? Parce que ça atomise la campagne européenne d'Emmanuel Macron.
Ça
s'est impliqué personnellement. Ça atomise le même temps. Ça détruit la Macronie. C'est l'acte de mort de la Macronie, si ça se produit. Si Glucksmann passe devant Valérie Ayer. Donc, l'idée, c'est de sortir à la panne du chapeau. Un affrontement médiatique, on canalise les médias pendant des semaines, on ne parle que de l'affrontement Le Pen-Macron, et il n'y a plus personne d'autre qui existe.
C'est alors justement, personne d'autre n'existe,
c'est un truc de communicant.
Non plus Valérie Ayer, la tête de liste, Renaissance, déjà Premier ministre.
Existé, Valérie Ayer.
Oui, mais déjà Premier ministre.
Ah, il est crème,
il a raison. Le Premier ministre Gabriel Attal va affronter Bardella Jordan de son prénom le 23 mai prochain. Si en plus le président s'en mêle, ça va devenir de plus en plus compliqué. D'ailleurs, Marine Le Pen, petit commentaire acerbe, je cite, « Je trouve le procédé très humiliant pour sa tête de liste et pour son Premier ministre. » En qui il n'a visiblement pas confiance, c'est une preuve de fébrilité. Moi, j'ai une bonne tête de liste, je n'ai aucune raison de lui couper l'herbe sous le pied. Fin de citation, Annabelle
deux
Roger.
Deux choses par rapport à ça. Tout à l'heure, Philippe disait, oui, mais Emmanuel Macron, lui, au moins, il fait campagne sur les européennes, il parle d'Europe. Ouais, et puis après, il fait un débat avec... il envisage un débat avec Marine Le Pen, donc on annule, on annule tout le...
Non, non, ici, Marine Le Pen
on accepte, on annule tout cet effet-là.
C'est justement son argument. Elle voulait parler de tout.
C'est ce qu'elle veut, elle, mais c'est pas ce qu'il veut, lui.
Deuxième chose, effectivement, Gabriel Attal et Emmanuel Macron, ce sont les Pères Noël du Rassemblement National. Voilà, on leur.
Les Pères Noël du Rassemblement National.
Pour moi, c'est les Pères, ce sont les Pères Noël du Rassemblement National et ce sont les Pères Fouetteurs de Valérie Ayer.
Ça reste entre nous à retrouver ce soir à partir de 21h sur Radio J.
Radio J.
Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Bonjour, Jaime Sembaum.
Bonjour à tous.
Et merci de nous rejoindre pour Judaïsme dans la cité. Israël commémorait cette semaine Yom HaZikaron puis Yom HaAtzmaout. Chaim Nissemoum, comment construire après tant de pertes, après tant de deuils, en particulier, cette année?
Bien justement, je crois qu'il faut revenir au sens que la pensée juive donne à de tels jours. Bien entendu, cette idée de Yom HaZikaron est une idée très ancienne dans le judaïsme. Souvenons-nous, en particulier dans les communautés ashkénazes, on dit très régulièrement une prière qu'on appelle le Yizkor. Yom HaZikaron, c'est le Yizkor, d'ailleurs c'est le même mot, ça veut dire souvenir, souviens-toi. On doit se souvenir des personnes disparues. Pourquoi donc? Eh bien parce que dans la vision juive, les personnes disparues ne le sont pas vraiment, ne l'oublions pas. Elles sont toujours présentes parmi nous, elles sont toujours auprès de leurs proches, et d'ailleurs... Les histoires talmudiques sont pleines de ces récits où l'on voit des sages qui manifestent leur présence alors qu'ils ont quitté matériellement ce monde. Cela veut dire qu'un Yom HaZikaron, qu'un jour où l'on se souvient, n'est pas un jour qui doit uniquement rimer avec la notion de deuil. Alors bien sûr c'est un deuil, bien sûr ces événements et particulièrement ceux que nous avons vécu cette année sont particulièrement tristes et véritablement bouleversants, mais il ne faut pas juste en tirer une notion de tristesse et de regret pour les événements passés sur lesquels hélas nous n'avons plus guère de prise. Il faut en fait en tirer une force nouvelle. C'est-à-dire que le souvenir, et c'est ainsi qu'il est présenté dans la tradition juive, est là pour permettre de renforcer la présence de la personne qui matériellement nous a quittés et également de lui apporter une élévation dans le monde spirituel où elle se trouve. Et ce faisant, nous retrouvons nous-mêmes une force pour continuer l'œuvre qu'elle a entreprise.
Donc, il faut également... continuer à s'inscrire dans le collectif, participer à des activités, à des rassemblements, à des œuvres pour garder l'espoir et se projeter vers l'avenir malgré tout.
Oh, ce n'est pas simplement pour garder l'espoir et se projeter vers l'avenir, c'est que donner une concrétisation au souvenir, c'est l'enraciner. C'est apporter quelque chose à l'âme de la personne dont on marque le décès, dont on dit le souvenir, justement. C'est dire que ce jour-là, se réunir, accomplir un acte méritant, ce qui peut être un acte évidemment rituel, la récitation d'un kaddish, la participation à une prière collective, ou qui peut être aussi un acte qu'on définira aujourd'hui comme... peut-être plus profane, qui serait par exemple venir en aide à quelqu'un, à donner de son temps ou de son argent à celui qui en a besoin, à la mémoire de celui qui est parti. Ce n'est pas qu'une manière de marquer un souvenir, c'est une manière de dire la présence de la personne concernée est tellement forte ici-bas qu'elle a encore une action sur le concret. Et ça, c'est plus qu'un souvenir, c'est comme une forme de vie maintenue.
Il faudra pour terminer, Chaim Nissembaum, faire parler ces familles endeuillées.
Il faut certainement les faire parler. parce qu'elles ont besoin de le dire. Et d'ailleurs, l'organisation, en dehors de tout cas dramatique, lorsqu'un proche disparaît, on le sait, dans le rituel juif, il y a des périodes, il y a les 7 jours qui suivent le décès, et puis il y a le mois, et puis il y a les 11 mois et l'année. Et ce sont des étapes, en réalité, d'élévation de l'âme qui correspondent aussi aux étapes de réconfort de la famille. Il faut savoir le leur donner en sachant que quand un deuil, quand une perte d'un être cher frappe quelqu'un, c'est tout notre peuple qui en est touché, quelles que soient les circonstances, et c'est nous tous qui devons y penser.
Merci beaucoup, Rémi Sebaum, d'avoir été avec nous. On peut vous écouter en podcast sur radioj.fr. Shabbat shalom.
Radio J, 14h, 15h, le grand journal, Steve Nadjar.
Et c'est sur ces mots que s'achève votre grand journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
Radio J.
Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission en podcast sur notre site radioj.fr et sur toutes les plateformes de streaming quand vous le voulez. À suivre le morning. Je vous donne rendez-vous pour ma part à 14h en direct sur